Ça me dit quelque chose. Une émission de Radio Sud pour le Beau Canton et pour les radios associatives et d'expression de la CRAX. À la technique, Pierre Aubeguin. Aux commandes, Claudie Roulant, Jonathan Dupont, Mathieu Galerin et Patrick Besure. Bien voilà, nous sommes ici dans le studio de Radio Sud avec Pierrot derrière la vitre virtuelle de la régie technique.
Voilà, bonjour tout le monde.
Et au micro, Patrick Besure. En invité aujourd'hui, Françoise Demévius-Leboeuf. J'ai une première question. Madame Françoise Demévius-Leboeuf, qui êtes-vous ?
Ah, quelle question piège !
Ne vous inquiétez pas, après ce sera plus facile.
Oui. C'est une question qu'on ne se pose pas très souvent à soi-même. Je suis une vieille dame. Je vis depuis longtemps, depuis quasiment ma naissance. Je viens dans le pays comme bébé au départ, et puis maintenant comme une vieille dame, parce que la Forge Roussel appartenait à mon grand-père Charles Gros. Et mon nom de Leboeuf, c'est le nom de mon grand-père Henri Leboeuf, qui était le fondateur du Palais des Beaux-Arts. Je suis la digne petite fille des deux, c'est-à-dire que j'aime beaucoup les Ardennes. Je me sens maintenant plus chez moi, à Florentville, que je ne le suis quand je retourne à Bruxelles. Autrement, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ?
Mais vous parlez
déjà. Je suis une grand-mère, voilà.
Oui, d'accord.
Je suis une grand-mère.
Vous avez de nombreux petits-enfants ?
J'ai 10 petits-enfants. 10. Je n'ai pas encore d'arrière-petits-enfants. J'ai un mari qui est très sportif, qui monte beaucoup à cheval, qui adore la région et la connaît très très bien, mm-hmm. et qui est un grand défenseur de la nature.
Mais vous vous décrivez par rapport à d'autres pour l'instant.
Oui, mais probablement que c'est souvent comme ça qu'on se ressent. Mm-hmm. Oh, je serais bien incapable de sonder mon cœur pour vous dire qui je me crois être.
Racontez-moi alors, on a commencé par vous parler de vos grands-parents. Vous êtes né à...
Je suis né à Bruxelles.
À Bruxelles.
Je suis né à Bruxelles. Mon père était un homme qui travaillait à Anvers. Donc il faisait la navette avec Anvers très régulièrement. Et j'ai été élevée à Bruxelles. J'étais élevée au lycée de Saint-Gilles, mm-hmm. Qui était un excellent lycée où tous les professeurs étaient des professeurs de l'université de Bruxelles. Mm-hmm. Et je me suis mariée très jeune. C'est le hasard qui fait que nous nous sommes un jour retrouvés, enfin que mon mari c'est un jour a été demandé par mon grand-père s'il voulait racheter la Forge Roussel, dont aucun de ses enfants ne pouvait assumer la responsabilité. Et c'est comme ça que nous sommes devenus propriétaires de cet endroit merveilleux. Moi, j'avais passé toutes les vacances de mon enfance et de ma jeunesse, excepté l'été 44, où il y avait pas mal de résistants dans la région et où mon grand-père avait peur qu'il n'y ait tout d'un coup...
Les résistants étaient dans la forêt.
Oui, étaient dans les forêts bois, autour de Zépioux, mm-hmm. enfin dans un peu partout, du côté de Froidvent. Tous ces endroits-là étaient éventuellement dangereux. Et mon grand-père avait peur qu'il y ait un jour une intervention, qu'on le soupçonne de collaborer avec ces mm-hmm. Résistants. Donc c'est la seule année de ma vie... Non, après ça, je suis restée pendant un certain temps sans y venir, mais autrement, j'avais vraiment passé toutes les vacances. Et pour nous, on pouvait nous proposer les voyages les plus merveilleux que nous disions non, on aime mieux aller à la Forge.
Je reviens un peu en arrière encore, votre enfance.
Mon enfance.
Parce que vous étiez déjà en train de parler de votre mari.
Oui, mais enfin bon, mon enfance, eh bien, c'était une enfance.
Vous aviez des frères, des sœurs ?
Non, j'ai 3 sœurs, je n'ai pas de frères. Mm-hmm. Et j'étais la 3e, et puis il y avait une petite Raouette qui avait 5 ans de moins que moi. Mais autrement, nous nous suivions de très près, nous avions beaucoup d'amis à Bruxelles, et nous avions surtout cette chance extraordinaire qui est de pouvoir aller aussi souvent que nous voulions écouter de la musique au Palais des Beaux-Arts. Et c'est évidemment ça qui nous a toutes formées à cet amour que nous avons de la musique classique.
Ce qu'on va entendre d'ailleurs, parce que les disques que vous avez choisis pour l'émission sont très 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 classiques, mais
oui.
Classiques, c'est pas du baroque, enfin il y a déjà une sélection en choix quand même.
Oui absolument, mais c'est très difficile de faire un choix parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on aime bien, mm-hmm. mais mon grand-père avait souhaité que nous ayons jusqu'à la fin de nos jours la possibilité d'utiliser une loge qui existe toujours, qui s'appelle la loge Henri Leboeuf, mm-hmm. et qui était à deux pas de la loge royale, Et donc on arrivait là, on n'avait même pas besoin de prévenir, on avait une place dans le parking.
Et vous croisiez le roi aussi qui allait...
Non,
il n'était pas souvent là.
La famille royale, quand elle va au Palais des Beaux-Arts, elle a une entrée spéciale. Et ça nous est arrivé une fois quand on a fêté le 60e anniversaire de la construction du Palais des Beaux-Arts. Alors nous avons été invités pendant l'entracte à venir voir, c'était encore le roi. C'était Baudouin. Encore le roi Baudouin, mm-hmm. Oui, absolument. Et c'était évidemment très émouvant. Enfin voilà, nous étions tellement gâtés que nous trouvions ça tout naturel, je dirais. Donc voilà. Et ça, c'est une des choses certainement qui a dû avoir une grande importance pour nous. C'était cette possibilité d'assister à des quantités de concerts merveilleux. On a vraiment, souvent j'entends parler de musiciens très âgés, comme par exemple Yehudi Menuhin, mm-hmm. que nous avons eu plusieurs fois l'occasion de rencontrer. Et nous l'avions même rencontré quand il était encore tout jeune. Il avait été joué en duo avec sa sœur qui s'appelait Hepzibah. Ce nom extraordinaire, mais resté dans la mémoire, moi qui n'en ai plus. Et ils étaient venus jouer et nous l'avions rencontré à ce moment-là. Et puis nous l'avons rencontré une ou deux autres fois. C'était un homme évidemment extraordinaire. Nous, on a été très gâtés. On faisait des choses très intéressantes. Nous vivions en tram à Bruxelles à l'époque, évidemment. C'était mm-hmm. pas l'époque où on avait... Et à vélo. Nous allions à l'école à bicyclette tous les jours et on remontait courageusement. Et d'ailleurs, après la libération, où il y a eu beaucoup de circulation de camions militaires qui remontaient la chaussée de Waterloo, ce qui était notre chemin, nous avions beaucoup de succès, mes sœurs et moi, parce que nous avions pris l'habitude de nous accrocher à l'arrière d'un camion pour ne pas devoir pédaler. Donc on remontait depuis la barrière de Saint-Gilles jusqu'à ce qu'on appelle la bascule. Mm-hmm. Ça vous dit quelque chose?
Oui, le bascule, voilà.
Accroché.
C'est devenu des magasins, là.
Accroché, oui. Accroché à des camions militaires. Mm-hmm. À part ça, rien de spécial. Nous habitions tout près du bois de la Cambre, qui était aussi un endroit merveilleux. Et pendant la guerre, il y a eu quelques hivers très très froids et très enneigés, où on allait faire de la neige et plus ou moins du ski, mais enfin ça ne veut pas ressembler à grand chose. Mais voilà, c'était... Donc on vivait dans un environnement, je considère que nous avons été très gâtés.
Et donc vous habitiez à Bruxelles, mais vous veniez déjà à Flamanville.
Nous venions déjà, et pendant la guerre, mon grand-père était un homme qui voulait qu'on soit bien à l'heure, et comme il voulait être sûr d'avoir de la place dans le train, qui, si mes souvenirs sont bons, a commencé par passer par Dinan,
ah oui,
avant d'arriver
à
Bertry.
Ah oui, tout à fait possible.
Et donc on prenait ce train à 4-5 heures du matin pour être sûr d'avoir de la place, et généralement quand on venait à ce heure-là, on avait tout un compartiment, c'était l'époque où dans les trains il y avait un grand compartiment et un couloir. Je ne sais pas si on voit ça de temps en temps au cinéma, mais c'était tout à fait merveilleux, surtout qu'à ce moment-là, si on était 8 ou 10 au lieu d'être... Non, je crois qu'on pouvait être 8, bon, on s'entassait un peu une porte qui descendait directement sur le quai. C'était évidemment très amusant, je dirais, comme atmosphère. Mais là, au fond, depuis, on ne devait pas changer à Bertry. Le train allait jusqu'à Virton, je crois.
C'est ça, oui.
Oui.
Et il y avait un arrêt près des Épioux.
Nous ne sommes jamais descendus aux Épioux parce que c'était plus loin. Il y avait un arrêt à la cuisine.
Ah oui, justement, oui. Oui,
c'est ça. Oui. Nous descendions à la cuisine.
Mais c'était encore plus près du...
Oui, c'était plus près. Où le concierge de mon grand-père venait avec une espèce de chariot à roulette pour prendre les bagages. Et nous, on passait sur le chemin de fer. C'est-à-dire, on courait sur les billes de chemin de fer jusqu'au passage à niveau. Et alors là, on était vraiment tout près de chez nous. Voilà, ce sont Oui, c'était des vacances merveilleuses. Il y avait un couple de fermiers qui étaient très connus, les Béchoux, et qui habitaient à la ferme de Froidvent, mm-hmm. et qui nous recevaient toujours tellement gentiment. Et nous allions endormir les poules.
Endormir les poules. Les mettre à l'abri.
Pour le plaisir de les voir dormir. Et au fond, il suffisait de mettre leur... On les prenait, et très gentiment, la fermière nous aidait à faire ça. Je ne sais pas si c'était très bon pour les œufs, mais alors on mettait la tête sous une aile et on se mettait à balancer les poules, gentiment, comme ça. Et ça les endormait. Donc, quand on sentait qu'elles étaient prêtes à dormir, on les déposait. Et le grand jeu était évidemment de les déposer les unes à côté des autres et de parier sur celles qui allaient dormir le plus longtemps. Voilà. Le genre de jeu qu'on se livrait. Mais nous allions aussi aider à faire les foins et à rassembler les petits ballots, ça ne s'appelait pas des ballots, comment est-ce qu'on appelait ça? Vous voyez ce que je veux dire?
Les gerbes.
Les gerbes, voilà, de rassembler les gerbes de foin ou de paille.
Et ça, c'était à la cuisine ou à Martuet?
Non, ça c'était au fond de chez nous. On traversait à la fois. À l'époque, on traversait avec un bac. Maintenant, il y a un pont. Parce qu'on était obligé de mettre parce que nous avions des moutons de l'autre côté et qu'on ne pouvait plus les nourrir et s'en occuper avec le bac. Et donc, on traversait l'assommoir par le bac et puis on montait à pied jusqu'à la ferme. Et c'était une marche qu'on faisait très joyeusement. Et surtout, ça descendait en revenant. On pouvait faire toute la descente en courant.
Voilà, ou en luge.
Voilà. Je ne me souviens pas avoir fait de la luge là. C'est curieux, parce qu'au fond, ça aurait été très... Mais ça devait être très embêtant de traîner la luge jusque là-haut. Oui, il y avait des endroits où on pouvait faire de la luge. C'est vrai qu'on a eu des hivers très, 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 très froids. Pendant une partie de la guerre, en hiver, à la Noël, la maison était chauffée avec un poêle à sciure de bois. C'était une espèce de grand poêle rond, assez haut. J'ai l'impression assez haut, mais moi j'étais peut-être petite. Hein, mais enfin bon, ça devait certainement faire 2 mètres de haut. Et au milieu duquel il y avait une buse, comme une buse de n'importe quel poêle. Et alors, tous les matins, le concierge remplissait tout autour de la buse avec de la cire de bois tassée. Et puis on enlevait la buse et on faisait prendre le feu. Je ne sais plus si c'était au-dessus ou en dessous. Mais enfin voilà, et ça chauffait la cage escalier. On laissait les fenêtres ouvertes, les portes ouvertes plutôt. Et il faisait honnêtement chaud. Voilà,
c'était quelque chose qui avait été inventé pour la guerre ou pour les récupérer? Ou bien c'était parce que déjà, on se demandait ce qu'on pouvait faire avec de la sciure et éventuellement, c'était quand même quelque chose qui pouvait amener un peu de chaleur.
Que vous savez, s'il faut chauffer une maison assez grande comme celle que nous occupons avec du bois, il en faut vraiment beaucoup. C'est un très gros travail. Tandis que là, il y avait un menuisier qui devait être le grand-père d'Alain Loupe. Donc, il était le vieux monsieur Loupe, qui faisait la menuiserie, qui ne faisait rien avec sa sciure. Et, je ne sais pas, parce que mon grand-père était un homme assez inventif, mon grand-père Charles Gros, et que ça devait l'amuser d'organiser ce genre de choses-là. Donc, voilà, ce genre de souvenirs que j'ai. Et j'ai l'impression de n'avoir jamais manqué de rien. Au contraire, comme j'étais maigre comme un squelette, j'étais toujours très gâtée. La fermière me gardait un peu de crème fraîche de sa ferme. Pour essayer de me faire grossir, mais ça ne donne rien.
Dites-moi, là vous expliquez que vous veniez en train, mais vous êtes arrivé de venir en voiture aussi. Vous m'avez dit que vous fermiez les yeux là.
Ah oui, oui, mais ça c'était quand nous étions beaucoup. Oui, c'était bien après la guerre. Oui, c'est presque une époque où mes sœurs, en tout cas, commençaient à conduire une voiture. Et c'était, oui, la route de Libramont jusqu'à la cuisine était macadamisée, mais la petite route qui partait du premier croisement, enfin quand on sort de la forêt et qui descend vers le passage à niveau et vers Martuet, était en pierraille et on était très secoués. Donc c'était pas très difficile de deviner quand on changeait. On savait que quand on était là, on arrivait, on était quasiment arrivé.
Le bruit des pierrailles, vous rappelez.
Oui, tout à fait ça. Déjà le tournant, et puis un petit creux, et on se savait exactement où on était.
Et donc pendant la guerre aussi, il s'est passé des choses. Florentville, il y avait des Allemands.
Je n'ai aucun souvenir, parce qu'à mon avis, nous ne mettions jamais les pieds. Moi, j'avais 14 ans à la fin de la guerre. On est venu très peu après, mais on restait beaucoup. On allait à la messe, à la cuisine, mais on... je n'ai aucun souvenir d'avoir jamais été à Florentville.
À cette époque-là. Mais vous avez rencontré des Allemands pendant la guerre?
J'en ai rencontré beaucoup à Bruxelles, évidemment.
Oui, mais ils étaient ici aussi
Je ne sais pas. Non. Est-ce qu'ils étaient à Florentville? Je devrais savoir, j'aurais dû me renseigner. Mais oui, je pense qu'il y avait des Allemands à Florentville, mais enfin, je crois que ce n'était pas très envahissant.
Oui, pour des envahisseurs, il n'était pas envahissant.
Non.
Par exemple, la Forge Roussel, il y a eu des gens qui ont été logés là.
Oui, en 40, au moment où les Allemands sont arrivés,
au départ,
des gens du village de la cuisine qui ont renseigné aux Allemands une possibilité de logement dans cette grande bâtisse qu'est la Forge Roussel. Et il y a effectivement eu des Allemands qui sont venus loger. Mais ils ont laissé la maison dans un état absolument impeccable, avec comme seul souvenir de leur passage un gros paquet de linge sale. Et l'officier allemand avait écrit une lettre en s'excusant de ne pas avoir pu s'occuper aussi de faire lessiver le linge. Voilà. Donc c'était vraiment très correct. Et
des envahisseurs d'un certain niveau, là.
Oui, des envahisseurs bien élevés, voilà. En tout cas. Oui.
D'accord, d'accord. On va écouter un premier morceau de musique que vous avez choisi. Comme on l'a dit en début d'émission, vous êtes passionné de musique classique et donc vous avez choisi un morceau de Mendelssohn. Il y avait une raison particulière, simplement il vous plaît.
Oui, simplement, c'est un. Je pense qu'une des raisons particulières, c'était que j'avais deux sœurs qui jouaient du piano, et à mon avis, une des deux a dû jouer une de ces scènes d'enfant. Et
voilà.
Voilà. Je n'ai pas fait des bruits horribles.
Voilà, Françoise de Mévius, Le Bœuf. Vous nous avez déjà expliqué pourquoi vous appelez Le Bœuf, enfin le nom qui vous permettait de rencontrer le roi Baudouin dans les. Non, je caricature un petit peu. Après, il y a eu la guerre, puis vous avez déjà dit que vous avez rencontré votre mari très jeune, et vous êtes installée alors à la Forge-Roussel.
Non, pas tout de suite. Nous sommes.
Expliquez-moi ça.
Nous sommes. Non, lui devait encore faire son service militaire. Donc nous nous sommes installés pendant un certain temps à Bruxelles, où deux de nos enfants sont nés. Et puis nous avons eu l'occasion de faire un voyage en Afrique avec des amis. Nous avions confié les enfants à ma mère. Et nous avons fait un voyage magnifique en partant de ce qui à l'époque était Stanleyville, et puis en traversant l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, et vraiment un pays superbe. Et puis mon mari avait des cousins qui habitaient au Kivu, et nous avons à un moment donné quitté les amis avec qui nous avions voyagé, et nous sommes allés au Kivu. Et ses cousins, enfin cette cousine vivait avec le directeur général de l'IRSAC, un institut de recherche scientifique en Afrique centrale qu'il avait fondé. C'était un médecin d'origine gantoise, tout à fait francophone, mais il était médecin, il était professeur à l'université de Gand et il avait fondé un endroit absolument magnifique où il y avait des chercheurs de toutes sortes de scientifiques, tout ce qu'on peut rêver. Et nous avons été passionnés par ce qu'il nous a montré et nous avons décidé d'acheter une petite plantation. On s'est dit, mais au fond, pourquoi est-ce qu'on ne resterait pas ici? Mon mari est parti en premier lieu et puis moi, je suis allée le rejoindre et nous avons vécu là jusqu'en 60, où pensions retourner. Enfin, moi, quand je suis partie dans des conditions pas tellement faciles, je suis retournée en Belgique et mon mari est venu me rejoindre au mois de novembre. Et puis finalement, nous n'avons jamais pu retourner. Mmh. Donc ça a été une tranche de notre vie. Et à ce moment-là, mon grand-père commençait à trouver que la propriété à la forge était un peu trop lourde pour lui. Et il a proposé, il a fait un peu chercher de savoir qui parmi ses enfants éventuellement reprendrait. Et comme aucun des enfants ne voulait se mettre cette responsabilité à dos, il savait que mon mari adorait l'endroit. Il lui a proposé de lui racheter la forge. Et alors nous nous sommes installés, nous ne sommes pas installés tout de suite, nous sommes installés en 65, mais dès 61 nous avons été y passer toutes les vacances scolaires avec toute la famille. Et tout.
Et votre grand-père habitait là?
Mon grand-père avait un appartement à Bruxelles où c'est il passait ça. L'hiver.
Ah oui, voilà.
Il n'habitait jamais. Et une des raisons pour lesquelles tout d'un coup il avait quitté l'endroit, c'est qu'il était habitué à avoir depuis de nombreuses années un concierge qui connaissait tout, parce que finalement c'était un endroit où il faisait lui-même l'électricité avec une turbine hydroélectrique, donc il y avait un problème d'électricité, le problème de l'étang et tout ça devait être géré par quelqu'un, et que cet homme voulait prendre sa retraite, donc c'est ça, tout ça, ce sont tous des éléments qui ont joué à l'époque.
Mais je reviens un petit peu en arrière, mais vous êtes resté très longtemps en Europe, vous, une quinzaine d'années, si je comprends
bien. Non, pas du tout. Non, quand nous sommes partis en Europe, c'était en 57.
Ah oui, d'accord.
Nous sommes partis. Nous avons fait le premier voyage en 56, et nous sommes partis en 57. Non, nous avons passé.
Avec des enfants?
Oui, moi je suis repartie avec deux enfants. J'ai deux enfants qui sont nés là-bas. Mm-hmm. Et le cinquième est né quand je suis rentrée en Belgique. Voilà, c'était une vie merveilleuse. C'était le Kivu, à l'époque, était un rêve.
Oui, pourquoi ce n'est plus le cas maintenant?
Non, c'est épouvantable. Les guerres de cette partie du Congo, c'est l'horreur. C'est l'horreur particulièrement pour les femmes et pour tous les villages. Et non, c'est dramatique.
Vous suivez encore l'actualité?
Je la suis pas tellement dans les journaux, mais je la suis parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont entrepris de tâcher d'aider les femmes qui ont été vraiment très maltraitées, violées, jetées hors de leur village, parties le long des routes. Et notamment, il y a une œuvre que j'aide régulièrement et qui a créé un centre d'accueil où on essaye de reclasser ces femmes, de les remettre en état et de leur apprendre à se débrouiller. On les installe mieux, on leur donne des chèvres, des poules, un petit champ à cultiver, des choses de ce genre-là. Enfin, c'est très sur place, on essaye de les réintégrer. Et ça se passe près de Bukavu, que j'ai bien connu, donc ça m'émeut peut-être plus que si je n'avais pas été là-bas. Ouais.
Mmh. Alors, la Forge Roussel, ça c'est aussi toute une aventure.
De s'installer à la Forge Roussel.
Vous venez d'expliquer déjà qu'il n'y avait pas d'électricité, en gros.
Ah oui, non, c'est vrai. Il y avait une turbine hydroélectrique. Voilà. Il fallait être très économe et ça ne marchait pas toujours exactement comme on voulait.
Ça fonctionne comment une turbine? C'est pas une roue.
Il y avait déjà à l'endroit où était cette turbine, il y a eu une époque où il y avait une forge, une des usines de forge. Et ça, c'était dans le bas, près des garages. Et donc, il y avait de l'électricité, mais pas question d'avoir, sur ce courant-là, d'avoir une machine à lessiver, ni une machine à vaisselle. Nous avions un frigo au gaz, mais ça, j'étais habituée, parce que c'est ce que nous avions au Congo aussi. Mm-hmm. Et voilà, c'était... on était très souples, on en avait vu d'autres, je dirais. Mais petit à petit, on a quand même... Mon grand-père avait déjà installé un moteur pour un certain nombre de choses. Donc on a remis ce moteur en état, mon mari s'est occupé. C'était tout ce genre de choses-là que mon grand-père n'avait plus vraiment le courage de faire. Petit à petit, tout ça, rien ne m'a jamais manqué, ni le,
Et le moteur, il servait à produire de l'électricité?
Oui, justement. C'est-à-dire qu'au fond, là, on était très dépendant de l'eau, et dans les étés où il y avait très peu d'eau dans le ruisseau qui vient des épieux, parce que nous avons un étang chez nous qui a servi à faire fonctionner les forges qui étaient là. Et quand le ruisseau était très, très bas, parce qu'il y avait peu d'eau, évidemment, on ne pouvait pas... quasiment pas utiliser la turbine. Donc à ce moment-là, le moteur était quand même une chose précieuse. Un peu bruyante, dans un endroit où on entend...
Ben oui, c'est ça, oui, évidemment.
Mais bon, il y avait beaucoup de travaux à faire dans la maison, et il y avait notamment des endroits où il y avait des poutres, les grosses poutres de support de l'étage qui ont dû être consolidées. Il y a eu, je dirais, nous avons repris donc en 61... Déjà à la Noël 60, nous étions allés, mais en 61, on a commencé à faire les travaux, et qui ont consisté surtout à ranger une partie de la maison dans laquelle on pourrait déjà s'installer assez confortablement. Et puis petit à petit, on a dû faire toute une série de travaux, de remise en état des grands murs, de soutènement et des choses comme ça. Donc il y a eu quelques années d'organisation, d'installation, mais tout ça s'est très bien passé.
Et alors, vos enfants, à l'époque, ils avaient quel âge? Ils
Mes
étaient
enfants,
en âge d'aller à l'école?
Oui, tout à fait. Mais nous avions, à cette époque, enfin, pendant, jusqu'en 65, nous habitions près de Namur, à Arte, près de la famille de mon mari. Et ils allaient à l'école à Namur et au village. Et quand nous nous sommes installés tout à fait, c'est-à-dire en 65, nos deux aînés sont entrés en pension. Dont ils n'ont heureusement pas un trop mauvais souvenir.
Oh, mais parfois, il y en a qui en ont même de très bons. Ça
oui,
dépend.
Non, je crois qu'il y en a. Non, dans l'ensemble, ils auraient mieux aimé qu'il y ait une... À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de choix, Florentville. L'école des filles, c'était une école où on apprenait à être une bonne ménagère, à savoir lire et écrire convenablement. Enfin, c'est vrai, c'était pas du tout des. Tout ce qu'ils ont eu l'occasion d'apprendre quand ils étaient en pension. Et donc voilà, la question des écoles a été un peu résolue par les pensions.
Et les autres enfants allaient alors à l'école
Oui, ils ont été à l'école de Florentville. Les trois plus jeunes ont été à l'école de Florentville. Oui. Voilà. Et ils ont été à l'école de l'État. Je ne sais plus très bien pour quelle raison. Je crois que je m'étais disputé avec le doyen de l'époque.
C'est des choses qui peuvent arriver. Hein. Ça dépend du doyen.
Oui, je ne sais pas si vous vous souvenez du doyen.
Écoutez, doyen Nilan, c'est ça? Non, je ne me souviens pas. Je n'habitais pas encore dans la région.
Vous ne devriez pas citer son nom, je trouve.
Ah, bah, oui, ouais. Bon, si le doyen, vous situez l'époque, on voit
oui,
déjà qui c'est.
Voilà. Oui. Non, voilà autrement les choses. Vous savez, c'était comme dans toutes les familles où il y a déjà 5 enfants. On est très occupés. Moi, j'ai continué à aller régulièrement à Bruxelles parce que pour voir mes parents.
Et alors pour aussi, parce que je m'interrogeais, donc vous étiez passionné de musique, mais dans le fin fond des bois, là,
non,
il ne doit pas y avoir moyen.
Non, pas, bon, ça dit, il y a toujours eu la radio, oui. J'avais peut-être, j'avais beaucoup de grands disques, je ne sais plus comment on appelle ça. Mais...
Oui, des 33 tours.
Oui, les 33 tours, c'est qu'est-ce qu'on appelle les platines.
Oui, la platine, ça c'était
c'est plutôt le disque.
C'est le tourne-disque, oui, c'est ça, ici, là, comme ça.
Ah voilà, ça. Donc j'écoutais de la musique de cette façon-là, et de temps en temps, je m'organisais. Quand je voulais aller voir mes parents, à faire les deux en même temps, surtout que mes parents à l'époque habitaient près de Haas. Donc c'était encore un petit bout de chemin en plus. Je suppose que je ne manquais pas de courage et d'énergie, et je faisais ça quasiment une fois par semaine.
Ah oui,
donc, voilà. Ouais.
Bien, bah écoutez, on va encore entendre une belle musique d'un compositeur des plus connus, Jean-Sébastien Bach, avec 4 claviers.
Oui.
On va entendre ça, peut-être vous avez un commentaire après, je ne sais pas.
Oui, sûrement. Je veux dire que...
Voilà, Françoise Leboeuf, vous êtes aussi baronne de Mévius.
Oui.
Oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Ce morceau de musique, vous aviez peut-être envie d'en parler ou...
Bon, c'est-à-dire que j'ai un souvenir merveilleux de l'avoir entendu dans la grande salle du Palais des Beaux-Arts, et le plateau sur lequel il y avait quatre grands pianos Steinway.
Un concerto pour quatre pianos, il faut quatre pianos, voilà. Mais c'est impressionnant.
Et notamment un pianiste que nous aimions beaucoup, qui s'appelait Edwin Fischer, et c'était très impressionnant. C'est un grand souvenir de musique de l'époque, quoi. C'était, enfin de l'époque, non, mais l'époque où moi j'allais au concert, voilà ce que je veux dire.
Ce qui est intéressant avec notre émission, c'est que les invités apportent toujours des choses très particulières, et ici on est quand même baigné dans belle et grande musique, c'est chouette.
Ah oui, sûrement. J'ai un jour aussi assisté à une chose qui était extraordinaire. Je ne sais plus très bien comment on avait découvert que c'était l'anniversaire du chef d'orchestre. Et donc on avait assisté, c'était de la musique de chambre, donc beaucoup de violon et d'alto, enfin c'était vraiment des cordes. Et à la fin, on applaudit, et puis dans la salle, il y a quelqu'un qui s'est mis à chanter « Bon anniversaire ». Oui, et l'orchestre s'est mis à accompagner la salle. Donc je ne sais pas si vous voyez d'ici la salle du Palais, la grande salle du Palais des Beaux-Arts, c'est vraiment très grand, je ne sais pas s'il y avait des gens jusqu'au plafond, mais en tout cas c'était... toute la salle chantant, parce que tout le monde se met à chanter ce genre de choses-là, et l'orchestre accompagnant ce chœur immense, c'était aussi un grand souvenir de l'époque. Voilà.
Très bien, on va chanter ça aussi en chœur un de ces jours. Oui. dans le studio ici, ça sera moins impressionnant, voilà. On revient à Forges-Roussel, parce que ça m'a l'air d'être un endroit passionnant. Mais vous là-dedans, qu'est-ce que vous orchestrez ?
Oh ben j'ai orchestré la maison et j'ai orchestré le jardin.
Vous avez donc des journées bien chargées.
Mais le jardin était en très bel état quand mon grand-père a quitté, parce que cet homme qui donc voulait prendre sa retraite était un homme qui aimait son métier et qui faisait même des choses en hiver que mon grand-père ne lui demandait pas nécessairement de faire, genre par exemple des petits chemins de piétons dans la forêt qui est au-dessus de chez nous, et c'était vraiment, et qui faisait des petits escaliers en pierre, enfin des beaux petits escaliers en pierre, enfin c'était vraiment, donc on a fait que réorganiser les choses. Ce que moi j'aime beaucoup, c'est une des choses qui est je dirais pas une passion, mais enfin que je trouve une distraction merveilleuse et dont on a beaucoup, peut avoir beaucoup de plaisir. Et puis c'est une grande maison et de nombreux enfants. Et
oui, ça fait du travail.
Tout ça représentait des occupations.
Bien sûr.
Voilà.
Et alors vous vous intéressez aussi à l'environnement.
Absolument, absolument. Oui,
parlez-nous un petit peu de ce qui vous passionne.
C'est-à-dire qu'au fond, quand nous étions en Afrique, nous étions vraiment dans un pays où on allait de découverte en découverte. Et mon mari avait été très vite... on lui avait demandé de s'occuper de tout ce qui consistait l'ornithologie dans cette région-là. Il connaît toujours admirablement les oiseaux. Et donc, nécessairement, de temps en temps, je participais à des expéditions ou à des petits voyages, choses comme ça. Donc, on a vraiment eu la chance de voyager, de rencontrer des quantités de choses magnifiques en Afrique. Et quand on est rentré, c'était à une autre échelle, évidemment. Mais on a très vite, comme mon mari n'est pas chasseur du tout, il n'aime pas les chasseurs, on a très vite fait tout ce qu'il fallait pour que chez nous, les cervidés soient en paix. Et donc, on a eu beaucoup d'occasions de les voir de près. Actuellement, c'est plutôt les sangliers qui viennent labourer nos pelouses.
Évidemment, si on ne les chasse pas, qui commence à prendre le dessus.
Oui, mais enfin, ça, c'est comme ça, hein. C'est un choix.
C'est un choix.
Enfin, voilà. Oui, donc, moi, j'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup la botanique. Mm-hmm. Ça m'intéresse. Je ne suis pas une très grande connaisseuse, mais j'aime bien.
Vous plantez alors aussi des choses, non ? Vous vous intéressez à ce qui est déjà dans la nature autour
Je m'intéresse, mais je ne suis pas une scientifique. J'aime bien, je m'intéresse. Il y a beaucoup de choses que je connais, mais je ne passe pas mon temps avec une loupe pour en connaître de nouvelles.
Vous ne connaissez pas les particularités des plantes qui vont soigner telle ou telle...
Quelques-unes.
Et vous vous soignez avec ça, alors ?
Je me soigne beaucoup à l'homéopathie, je vous dirais.
D'accord. Voilà.
Et ce sont, d'une certaine façon, ce sont les
oui,
plantes.
Si oui, si on veut, oui, c'est oui. vrai, tout à fait.
Et d'ailleurs, c'est une des premières choses que nous avons faites. Mon grand-père aimait beaucoup les roses. Et il avait planté des roses dans des endroits où les biches venaient gentiment les manger. Mais enfin, je ne sais pas comment... Oui, il avait finalement clôturé toute la région, toute la zone jardin. Donc, il n'y avait plus de biches qui venaient. Et comme la première chose que mon mari a faite, c'est d'enlever ses clôtures, avec mon consentement, j'étais tout à fait d'accord, que je n'aimais pas l'impression d'une clôture. C'est toujours des ursus avec lesquels on fait ce genre de choses-là. Ça donne un peu l'impression d'être en prison.
Et c'est vrai que chez vous, c'est très, le paysage est très ouvert. Ah, oui, il n'y a pas de limite oui. à
Non, tandis
à la
que là,
vue.
Il y avait dans le bas... Il y a de près des garages, il y avait vraiment une clôture qui était visible. Et donc, on n'a pas hésité une seconde. Mais moi, pleine d'optimisme, je me suis dit, bon, les roses ont été abîmées, je vais replanter. Je vais replanter des nouveaux rosiers. Et au début,
mais
ça
les
a
biches...
très bien marché parce qu'on les plante souvent en automne. Donc, en automne, probablement, ça n'attire pas beaucoup les biches où elles ont tout ce qu'il leur faut ailleurs. Mais toujours est-il qu'au printemps, je me souviens très bien d'être un jour... J'étais passée à côté de ces rosiers où j'avais été un peu les soigner, les gâter un peu. Et j'avais été ravie parce qu'il y avait des belles petites pousses sur tous les rosiers. Et quelques jours après, je regarde par la fenêtre des chambres de la maison. Je me dis, c'est drôle, je ne vois pas les feuilles. Alors un peu inquiète, je vais voir.
C'est délicieux,
elles avaient été
les jeunes pousses
rasées, il n'en restait rien. Alors on a réessayé, on a refait une seconde tentative et puis on a rapidement décidé qu'on allait, il fallait choisir. Quoi. Donc on a supprimé les rosiers. Et comme on a un jardin potager clos de murs, on a mis les choses dans le jardin. Voilà. Donc mon jardin...
Il n'y a pas un rosier dans le jardin potager pour
Oui, si, il y en a, mais ça ne... une fois, nous avons vu un cerf qui était probablement poursuivi au moment d'une chasse et qui est passé chez nous. Et nous l'avons vu faire des sauts extraordinaires, parce que le mur du potager, depuis la route que vous avez suivie pour venir au moment où vous arrivez à la maison, le mur fait bien un mètre 50, au moins. Oui, non, je veux dire que si je suis dedans, et ça doit être même 1m80 plutôt, c'est plus haut que moi. Et on a vu ce cerf qui venait du bas, qui avait traversé l'assommoir et qui a fait un premier bond, qui devait déjà être un bond assez important, et puis qui a sauté ce mur-là. Et puis dans le potager, il y a un escalier qui monte à la terrasse qui est au-dessus, et puis il est filé dans les bois. Mais donc, comme rien, cet animal sautait, à mon avis, 2 mètres. Mais enfin, là, il ne faisait pas ça pour aller manger
voilà,
des rosiers.
Il était en danger, là, manifestement.
Oui.
D'accord. Écoutez... À part le fait que je vous croise de temps en temps au supermarché, je vous vois aussi de temps en temps à des réunions qui concernent l'aménagement du territoire. C'est quelque chose qui...
Oui, sûrement. Oui, c'est évident. Ça nous...
La vie locale, en quoi est-ce qu'elle vous intéresse? Qu'est-ce que vous pouvez lui apporter
Je ne crois pas que je puisse lui apporter grand-chose. Je dirais que dans l'ensemble, les choses nous désolent un peu sur la façon dont on a construit un peu partout. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Vous savez, tout le long des routes.
Le long des routes, oui, tout à fait.
Alors qu'il y avait... Pendant un certain temps, j'ai d'ailleurs travaillé avec ma sœur à... Comment ça s'appelait? C'était une société qui s'occupait justement de protection de l'environnement. Je ne me rappelle plus du nom. Mais enfin, toujours est-il qu'un des projets qu'on essayait de défendre, c'est le fait que dans presque tous les villages, il y aurait moyen de travailler, de construire des maisons le long des... Vous savez, le long des petites rues.
Oui, créer des quartiers, quoi.
Voilà, exactement. Étendre par quartier. Et quand on voit un village comme Martuet, c'est flagrant. Un quartier où on aurait pu continuer à traverser ce village qui est encore très protégé, je dirais, sans voir la moindre maison moderne, toutes différentes les unes des autres, ce qui avait gardé son caractère. Ben voilà. Donc, à part avoir essayé de faire ce genre de choses-là...
Et vous parlez de ça au passé, vous ne...
Non, parce qu'on s'est heurté à... Vous savez, on essaye, et puis quand au bout d'un certain temps, on se lasse. Et mon mari s'est beaucoup, lui, battu pour tâcher de protéger mieux le gibier, d'être plus respectueux. Parce qu'au fond, à un moment donné, il y avait beaucoup de cervidés qui venaient près de la ferme de Froidvent. Et puis, on a forcé tous les... même quelqu'un comme lui, qui ne chasse jamais, il a été obligé de faire un quota de chasse et des choses comme ça. Non, on vit plutôt reclus.
D'accord.
On n'a pas beaucoup.
Mais vous
Les gens qui sont enthousiastes et qui font un peu la même guerre que nous, mais ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'effet.
D'accord. Oui. Mais donc vous êtes reclus, mais quand même, vous vivez reclus, mais dans un domaine où vous êtes quand même, vous y prenez du plaisir.
Ah oui, tout à fait. Oui, c'est pas une plainte quand
non,
je dis
reclus,
c'était plutôt volontaire.
D'accord. Oui. Et alors quoi maintenant, votre famille, vos enfants reviennent.
Oui. Ils sont énormément venus à l'époque où leurs enfants étaient petits. Maintenant que tout ça sont des adolescents et même des grands qui vont, je ne parle pas de mes enfants,
non,
je parle même
des petits enfants.
Les petits-enfants deviennent grands, font des études, etc., ont des quantités d'activités, principalement à Bruxelles, ils viennent moins. Enfin, ils viennent encore tous régulièrement. Ils
Alors, vous communiquez avec eux par Internet ?
Non.
Vous aimeriez bien.
Je suis restée une accro du téléphone. Non, pas du tout, je ne suis pas une accro du téléphone, mais je n'ai pas un besoin de communiquer sans nouvelles spéciales. J'aime bien avoir des nouvelles, si ça dure trop longtemps, j'en prends moi-même, mais non. Évidemment, il y a toute une période de notre vie qui pour moi, ça m'a beaucoup marqué. Pour mon mari, ça continue toujours. Mais j'ai beaucoup monté à cheval avec lui à l'époque où nous nous sommes installés là. Et ça, c'est une chose extraordinaire, une chance extraordinaire de pouvoir encore monter dans un endroit où on peut monter pendant des heures sans tomber sur une clôture.
Et ah oui, puisque vous les avez enlevés.
Oui, mais ça, c'était pas ça qui nous aurait non, changé nos promenades.
Dans la grande forêt des Épioux.
Oui, dans la forêt des Épioux, où nous passons en respectant évidemment les chemins où nous allons et sans aucun problème, sauf une fois je crois où mes filles sont arrivées en plein pendant une chasse devant une chasseresse. Question difficile, enfin, qui était très 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 fâchée. Je peux comprendre parce qu'elle aurait pu voir ce qui arrivait et tirer. Non, mais dans l'ensemble, on sait très bien quand il y a des chasses où il faut venir ou il ne faut pas venir. Les relations sont de relativement bon voisinage.
On va écouter Gershwin, je pense. Ça, c'est aussi un choix que vous avez fait.
Mais ne le laissez pas plus longtemps que vous voulez.
On ne va pas le laisser aller jusqu'au bout, parce que sinon, vous n'aurez plus l'occasion de vous exprimer.
Ah non, c'est pas du tout ça.
Or, c'est ça qu'on a envie d'entendre, on a envie de vous écouter.
Vous êtes gentil, mais...
Thank you.
On pourrait évidemment prolonger. C'est une très 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 belle musique. Mais on vous invitera un jour à venir faire une émission rien qu'avec la musique de votre choix, parce qu'effectivement, ici le but oui. de l'émission c'est de
alors
vous entendre.
Alors prévenez-moi quelques mois à l'avance.
D'accord.
Pour que je repère les choses.
Très bien.
Mon beau-frère Hubert Nissen, qui est directeur, c'est lui qui a fondé les éditions Actes Sud.
D'accord, oui.
Il a fait un jour une émission, ça, sur toutes les musiques qu'il aime. Pas une émission, il parlait tous les mardis soirs. Tous les mardis soirs, je n'étais pas touchée avec des pincettes, j'allais m'enfermer dans un endroit où on me gênait pas. C'était passionnant. C'est un homme qui non seulement a fait cette extraordinaire maison d'édition, mais qui avait une connaissance de la musique merveilleuse, avec chaque fois un mot d'explication ou de... mettre ça en valeur.
Ah oui.
Je lui ai déjà demandé s'il n'existait pas une série.
Des enregistrements,
il a. Enregistrements. Ah oui. Voilà, ça devait l'ennuyer de devoir faire les recherches.
Et vous alors, est-ce qu'il y a des choses dont on pourrait dire qu'elles ont marqué votre vie, qui ont forgé votre personnalité, des choses un petit peu particulières de votre enfance ou dans la manière. Vous avez une vie tout à fait normale et linéaire.
C'est très difficile à
événements...
dire, parce que c'est drôle, j'ai toujours l'impression que j'ai passé les événements avec une certaine indifférence et confiance. Et... J'étais très gâtée quand j'étais petite, parce que j'ai failli mourir quand j'avais l'âge de 4 ans. J'avais attrapé une pneumonie, pleurésie, purulent, toutes les horreurs. 3 P.
D'accord.
et à une époque où il n'y avait pas encore d'antibiotiques, c'est bien ça. Sûr, mais il n'y avait pas encore de sulfamide. Donc, au fond, on n'avait aucune arme. Et c'est un médecin bruxellois, un jeune médecin bruxellois, qui a pris le risque de m'opérer, donc d'ouvrir tout ça pour qu'on puisse nettoyer. Et j'en suis sortie, après, je crois, 2 mois d'hôpital. Et j'ai été, évidemment, dorlotée pendant un certain temps. Et j'ai l'impression que ça a dû être excellent. D'être très dorloté pendant un certain nombre d'années.
Et vous êtes encore dorloté maintenant, alors ?
Je me dorlote moi-même.
D'accord.
Oui, non, ben... pas vraiment. Non, c'est... Mais je suis sûre que ça a dû avoir une influence sur moi, parce qu'autrement, j'ai vraiment eu une vie où rien ne s'est passé. Je me souviens évidemment, mais très vaguement, j'avais, je crois, 4 ou 5 ans quand mon grand-père, le bœuf, est mort. À part ça, j'ai eu mes parents et mes grands-parents très longtemps. Ma grand-mère est morte quand j'avais 18 ans, ma grand-mère, le bœuf. Je n'étais pas à Bruxelles et ça m'avait ému de ne pas être là. Et il n'était pas question que je revienne, j'étais en pension en Suisse, un peu aussi pour des questions de santé. Mmh. Mais mes grands-parents de la Forge ont vécu très, très, très longtemps. Ma grand-mère avait 99 ans. Elle disait régulièrement, je vais avoir 100 ans. Eh bien non, elle n'a pas eu les 100 ans. Elle est morte quelques mois, 2-3 mois avant. Mmh. Mais donc, c'est vous dire que tout ça était tellement... Ça se passait d'une façon assez naturelle au moment venu. Et je n'ai jamais été confrontée. Pendant la guerre, ça a été émouvant, évidemment, certaines époques. Mais autant une de mes sœurs était terriblement... avait terriblement peur. Elle était angoissée tout le temps. Je ne sais pas, moi, quand on entendait arriver les sirènes pour dire qu'il fallait descendre dans sa cave, je faisais les choses avec... Sans m'imaginer le pire, quoi, avec optimisme. Oui.
Non, c'est... Vous êtes résolument optimiste, apparemment, dans la manière
toujours,
dont vous êtes.
Enfin, non. Oui, dans l'ensemble.
C'est un peu l'image que vous
plutôt.
Donnez.
C'est vrai.
Je ne sais pas, mais je ne vous connais pas bien. Mais...
oui, probablement un peu. Oui.
Et voilà. Est-ce qu'il y a des leçons que vous tirez de votre expérience de vie et dont vous voudriez partager un petit peu avec les auditeurs ou avec les générations futures dont certains nous écoutent peut-être.
Non, je dirais que la seule chose est qu'il faut plutôt chercher les choses qui vont bien. Je ne suis pas quelqu'un qui donne beaucoup de leçons. Sauf quand on me le demande sur un cas bien particulier, je dirais ce que j'en pense. Mais dans l'ensemble, je crois que chacun doit trouver sa voie.
C'est une leçon déjà.
Oui. Et puis je trouve que dans le temps, on ne parlait pas du tout de problèmes psychologiques et de choses comme ça. Maintenant, on en parle beaucoup et on a des conseils partout. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, tout à fait.
Le nombre de livres qui passent, je ne sais pas, pour le moment, une des grandes modes, c'est de la simplification. Simplifiez-vous la vie. Mm-hmm. Et c'est des genres de choses que j'aurais envie de répéter, mais ce n'est pas moi qui l'invente. Donc,
Vous cherchez un peu une simplicité volontaire dans la manière d'organiser. Quand
oui,
le fait de quitter
oui.
une grande ville et de venir habiter et de devoir reconstruire toutes oui. des choses oui. un peu à l'écart.
Oui, mais il faut dire que probablement que le fait d'avoir... je me suis souvent demandé si j'étais arrivée dans un endroit auquel je n'étais pas attachée à la base. Au fond, je crois que mon sentiment, quand mon mari est revenu en me disant « nous avons... » Enfin, je viens d'acheter la forge mmh. à ton grand-père... Je crois que j'ai trouvé ça quelque chose de merveilleux, mais sans réaliser ce que ça représentait. Et je ne suis pas sûre que j'aurais vécu de la même façon dans cet endroit si je n'avais pas eu cette attache, cette envie de maintenir les choses dans l'état où notre grand-père nous l'a laissé. Donc c'est difficile, c'est très difficile à dire. De temps en temps, j'ai trouvé ça quand même dur de toujours devoir faire des longues routes.
Parce que j'ai fait pendant longtemps. Il faisait froid l'hiver aussi à un certain moment. Je sais que
ça ne m'arrêtait pas du tout. C'est pour la première fois cette année-ci. J'ai renoncé à faire les routes à cause de l'hiver.
Moi, je parle du froid dans la maison.
Il faut s'habiller convenablement. C'est vrai que, surtout que mon mari déteste dépenser le pétrole, je dirais,
oui,
et qu'on fait attention de ne pas exagérer. Mais non, il y a des endroits où il fait très bon. S'il y a bien une chose dont je ne me plains pas, c'est le froid. D'autant plus que nous avons connu la forge pendant la guerre. Et là, j'aime mieux vous dire, je me souviens d'une année, quand on est arrivé, il y avait moins 17 degrés dans le salon. Qu'on appelait le salon des jeunes, quoi, qui était une espèce de très grande pièce, qui était au milieu de la cour, avec un lanterneau, et c'était froid. À l'époque, il faisait très froid, il n'y avait que des poêles dans les salles de bain, il y avait un chauffe-eau au bois dans la salle de bain de mon grand-père, où on défilait les uns après les autres. Vous avez connu ces chauffe-eau au bois ?
Non, je ne vois pas, non.
Ces chauffe-eau au bois, je crois que je devais pouvoir...
Pierrot bien, apparemment.
Oui, vous avez connu ça. Merveilleux objet. La salle de bain était tellement chaude qu'on y serait resté pour le plaisir. Ça fournissait. C'était un peu l'époque où on commençait par donner le bain aux bébés, et puis aux plus jeunes enfants, et puis peut-être la maman, et puis le père, pour qu'on considère que le père était moins propre que les autres, je ne sais pas. Mais enfin voilà. Mais c'était. Non, on n'a jamais souffert. Je n'ai jamais souffert ni de froid ni de faim. Non.
Et est-ce que, par rapport à la manière dont vous voyez les choses, vous voyez les choses par rapport à autour de vous, je m'embrouille parce que je n'avais pas dans mes notes ici, mais comment vous voyez le monde de demain ? Oui, c'est ça, c'était un peu ça ma question.
C'est bien difficile.
Par rapport à celui d'aujourd'hui.
C'est difficile d'être optimiste, je trouve.
Ah oui.
Je ne sais pas si vous réussissez à être optimiste, mais je trouve que tout ce monde qui se développe follement, où on sait qu'il y a trop de natalité et on ne fait rien pour tâcher d'enrayer ça, on parle plus de catastrophes que de choses agréables à entendre. Et je trouve que même... On fait des découvertes évidemment extraordinaires. Il y a des quantités de choses qui sont très intéressantes, mais dans l'ensemble, je trouve qu'on n'a pas gagné en sagesse. Dans la façon de vivre.
Il paraît que c'est génétique, hein, d'après le professeur Dedu, il dit que les êtres humains se sont développés en ayant besoin de s'imposer, mais sans être
capable de construire. Oui, tout à fait. Il y a une espèce de la concurrence qui est une chose terrible. Mm-hmm. Le besoin de vouloir toujours mieux, et plus chic, et plus cher, et plus... Enfin, tout le monde n'est pas comme ça, mais enfin, c'est un peu un modèle que donne la société actuellement. Non, moi, je ne suis pas très optimiste.
Mais vous aimez bien les choses qui sont plaisantes. Vous aimez Frank Sinatra.
Oui, j'aime beaucoup Frank Sinatra. Ah oui, c'est une très belle chanson de Frank Sinatra. Vous n'aimez pas Frank Sinatra ?
Si, j'aime beaucoup Frank Sinatra. Mais...
Oh, si vous allez bien, j'espère que vous avez bien choisi celle que je voulais.
Si c'est passé là, on recommence.
Oui, d'accord, il faudra, parce que c'est vraiment...
I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you.
Voilà, une toute belle chanson.
Ah oui, c'est une très belle chanson, je trouve que c'est une des harmonies merveilleuses. Oui. Ne croyez pas que je suis très sentimentale.
Non, parce que c'est vrai que c'est...
C'est quelque chose qui... que j'ai toujours beaucoup aimé. Je voulais vous dire encore une chose, c'est que depuis que je vis dans cette maison, ça m'arrive très très souvent de penser à l'époque où des gens ont vécu là, en 1656, qui est l'époque de la quête.
Prenez, oui, absolument. Il y a un petit peu d'eau qui est prévu pour.
Voilà.
Il n'y a pas de souci.
Donc, vous imaginez, 1656, il n'y avait qu'une seule partie qui était habitation. Le reste, c'était des ateliers, des bâtiments comme un four à pain et des choses comme ça, et des endroits où on rentrait du foin. Mais donc, dans cette partie qui est très bien construite, ce sont des pièces qui ont des proportions très agréables. Mais là, il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas d'électricité. Et ça devait quand même être des gens très, très résistants.
Ça vous a donné du courage de penser alors à ces personnes-là en disant, il y en a d'autres qui l'ont fait avant nous.
Ne nous plaignons pas.
D'accord. Voilà. Écoutez, je crois que vous avez encore beaucoup de choses à nous dire et à nous raconter, mais on est un petit peu arrivé au bout du temps de l'émission. Vos petits-enfants vont pouvoir écouter l'émission. Il suffit qu'ils se branchent sur www.beaucanton/radio-sud.
Je vous donnerai ça.
Et donc, c'est vrai qu'on peut réécouter cette émission sur le site internet de Radio Sud. Voilà. Donc, les auditeurs peuvent le faire aussi. Et vous-même aussi.
D'abord, leur carte moi-même pour voir si je leur donne.
Voilà. Vous avez écouté ce que vous avez dit. Vous
oui, voilà.
Françoise de Mévius-Lebeuf, merci vraiment beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui.
Ben écoutez, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu.
Merci beaucoup. Pierre Aubeguin, Claudie Roulant, Jonathan Dupont, Mathieu Gallerin, Patrick Bezure. Ça me dit quelque chose. À la semaine prochaine, même chaîne, même heure.